présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Merveilleux Monsieur Bébé, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Lui dit, je t'ai écouté tout à l'heure, qu'est-ce que t'avais à brailler comme ça? Ce sont ces fascistes qui cherchent à s'emparer de la radio. Tu te rends compte? Ils ont téléphoné pour lui dire qu'ils n'étaient pas d'accord avec ce que l'on dit. C'est fumé. Mais je ne vais pas me laisser faire, on ne se laissera pas faire. Et lui dit, t'as bien raison, va. Il va prendre une bouteille à terre et s'asseoir à table. Pour se servir à boire. Tu en veux ? Non, merci. Oh, et puis oui. Elle va s'asseoir en face de lui. Il la serre. Tiens. Robert boit en silence. Son nom de famille, c'est Ducourt. Elle, c'est Yvette. Son nom de jeune fille, c'est Jeunette. Après avoir bu, elle lui dit « J'ai plus rien. Il va falloir faire quelque chose. »« Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? J'ai donné ma vie au militantisme. J'ai pas le temps de travailler. » Elle lui dit « Faudra bien travailler, faire quelque chose, trouver quelque chose. » « Je vais réfléchir. Ces capitalistes, se sont emparés des richesses. Il ne nous reste plus rien. Oui, il ne nous reste plus rien. » Elle lui dit, il faut le leur prendre. Oui. Où est le petit ? Il dort. Déjà ? Oui, il était fatigué. Et il n'avait rien mangé. Il n'a qu'à travailler. Il se sert encore un verre de vin. Non, il faudra que ça change, santé capitaliste. Allez, viens, on va se coucher. Il se lève. Et vont dans l'autre pièce. Éclair. C'est une chambre avec un grand lit d'effet, plutôt un grabat, une vieille armoire en bois à deux portes. Contre le mur, sur un tas de couverture, dort un enfant. Le mari et la femme se déshabillent. Jetant leurs vêtements à terre. Et se couche en sous-vêtements sales. Le rideau a une couverture grise foncée. Il éteint la lumière par un interrupteur au-dessus de lui. La lumière est une ampoule au plafond. Ça sent le renfermé, la transpiration, le vin bon marché. Les Ducourt vivent dans cet appartement depuis 10 ans. Une fois qu'ils sont au lit, l'homme dit « Demain, je vais voir si je peux faire quelque chose. » Il n'a jamais rien fait, à part grogner contre la société. sa femme non plus d'ailleurs. À part faire les marchés de temps en temps pour aller demander des produits à jeter et au resto pontois. Ils sont tous deux alcooliques, se sont mis ensemble sans savoir pourquoi. N'ont pas de famille, n'ont toujours vécu à Lyon. L'enfant est né parce que la mère, l'esprit brouillé, a oublié de se faire avorter. Et puis un enfant, pour faire la manche, c'est intéressant. Les gens du quartier respectent ce couple qui défend le peuple, qui se sacrifie pour ses idées. Et puis Robert est toujours dans les cafés à crier sa haine des riches et à défendre l'autogestion, le collectif, la gratuité de tout, mais incapable de mettre en place un programme concret. Il faut. Comme la gratuité des transports en commun. Mais il ne dit pas comment le chauffeur, le mécanicien, l'achat du transport, le prix de l'essence, tout ça doit être payé. Qui et comment payer, si ce n'est pas l'usager. Non, lui dit il faut et c'est tout. Et ces grands discours populistes sont bien arrosés. C'est pas lui qui paye, mais ceux qui le trouvent formidable. Comme vous l'avez vu, il fait aussi de la radio. Cet homme qui est pour la justice vit au crochet de tout et fait vivre sa femme et son fils dans des conditions inhumaines. Mais c'est normal. C'est pour lui le défenseur des bonnes causes. Le lendemain matin, il se réveille à 10h. La langue pâteuse. Le sourire trouble. Regard mauvais. Elle met sa robe de chambre qui était à terre. Et lui, son pantalon. Sort de la chambre. Et s'assoient tous deux à table. Et chacun se sert un verre de vin rouge. Puis un deuxième. troisième. Il soupire et dit, ça va mieux. Se lève. Je vais chez Polo, je vais voir ce qu'il pense de ce que j'ai dit hier au soir à la radio. Elle lui dit, ils ont dû être contents de t'entendre dire ça contre les fascistes. Sûrement. Allez, et il quitte l'appartement. Il aime qu'on le félicite de ce qu'il a dit. Et tous les matins, il va au café pour se faire congratuler par les poivrons du coin. Yvette se gratte la tête. Elle a des difficultés à se mettre les idées en tête. Sa robe de chambre ouverte qui montre ses dessous. Les jambes écartées, les cheveux défaits, les seins lourds qui tombent, on dira un monstre. Les couvertures usées qui servent de rideau laissent passer à travers le tissu une mince lumière matinale. Les rideaux ne sont jamais ouverts, ou plutôt les couvertures ne sont jamais enlevées. À quoi bon? Après, il faut les refermer. La porte de la chambre s'est ouverte. Elle se retourne et voit son fils, un petit garçon dans les 9 ans, mince, taille moyenne, tête mignonne et très gamine. Cheveux blonds en broussailles, mais qui ont le pli en arrière. Il a de beaux yeux bleus, une grande bouche rieuse et charmante, un petit nez et de petites oreilles, un petit ange, habillé avec des vêtements trop grands pour lui, une chemise sale et déchirée, grise, un pantalon noir tenu par une corde, pleine de taches et trouée au genou. Il est pieds nus. Sa mère lui dit, « Oh, t'es déjà réveillé ?» Il n'est pas trop tôt. Le petit va vers elle et lui dit, « J'ai faim. T'as faim. Qu'est-ce que tu fais ?» Regarde dans le buffet, il n'y a rien à manger. Faudrait que c'est que tu décides à travailler. Moi, je peux pas te nourrir comme ça. Le petit garçon va au buffet pour chercher à manger. Dans le foyer, il trouve un morceau de pain rassis. Il l'a pris et le mange. Sa mère se lève et lui dit, « Eh bien moi, c'est pas tout ça. Je vais m'habiller. » Il lui demande, « Tu vas où ce matin ?» Elle lui répond, « Il y a le marché. Je vais voir s'il se trouve pas quelque chose. » Elle retourne à la chambre pour s'habiller. Elle fait les marchés pour essayer de faucher des choses sur les étalages et même si on ne peut pas acheter, prendre une carte de crédit ou une montre. Le marché c'est bien, on se bouscule. Elle est de gauche mais trouve normal de voler. Elle s'habille sans se laver. Plus on est dégueulasse, mieux c'est pour qu'on vous donne des choses. Elle sort de la chambre, habillée d'une robe grise. déchirée. Et d'un cabas en toile cirée noire. Elle porte des sandalettes. Bon, à tout à l'heure. Ne te touche pas au verre. Hein. Il m'en faut pour tout à l'heure. Allez. Et elle quitte l'appartement. François, l'enfant s'appelle François, a l'habitude de rester seul. Personne ne s'occupe de lui. Il pourrait même partir et ne pas revenir, personne ne s'en apercevrait. Et puis, c'est un peu ce qu'il souhaite. Une fois qu'il a fini son pain, il va s'asseoir à terre. Si à terre, sur le plancher, pourri et taché. Des fois, il n'a pas envie de sortir. Il reste des heures assis à regarder le jour entrer dans la pièce. Par un mince filet et voir la poussière danser dans ses raies de lumière. Ce mince filet de jour qui se faufile dans la pièce, ça lui permet de rêver, de s'imaginer des histoires. Puisque le décor est juste éclairé par ces filets, transforme ou cache les choses. Des fois, il s'allonge à terre, les mains derrière la nuque, et s'imagine qu'il est sur le pont d'un bateau qui vogue au fil de l'eau. Ou qu'il est dans un endroit mystérieux où se cachent des choses redoutables. Il peut être un explorateur ou un aventurier. Son imagination est très vive. Et puis, lorsqu'on a le ventre creux, cela donne le vertige. L'on plane un peu. Et ça vous aide à sortir du monde. C'est ce qui arrive aux petits. Rester des heures seul, sans parler à personne, le ventre creux. Il faut bien que son esprit fasse quelque chose. Surtout que son esprit bouillonne, aimerait tout connaître. Si l'enfant n'était pas laissé à l'abandon, il pourrait s'épanouir et concrétiser ses rêves. Car il rêve beaucoup. Et même des fois, il ne sait plus si c'est des rêves ou la réalité, tellement c'est si fort. François n'a jamais été à l'école. Il a appris à parler comme il a pu en entendant ses parents et les gens dans la rue. Personne ne s'est occupé de son éducation. Heureusement qu'il a eu le sens de mimer et l'habileté de le faire. Sa mère s'est très vite désintéressée à lui. Une fois qu'il a pu manger comme tout le monde et marcher. Lorsqu'il était bébé, on allait lui chercher le lait à l'association Pontois. Yvette n'a jamais eu l'instinct maternel, et puis l'alcool la rend égoïste et l'isole du monde. Il n'y a que son mari qui, comme il a les mêmes goûts qu'elle qui l'intéressent. C'est son Jules, son mec, un vrai, qui sait boire et faire des choses au lit. François, même petit, n'a jamais eu d'affection, aucune caresse ni mot gentil de ses parents. Mais très tôt, il s'est aperçu que les autres adultes l'aimaient bien, lui disaient des mots gentils et aimaient le caresser. Lui aime qu'on lui fasse ça. Il aime et recherche affection. Il veut plaire et qu'on lui dise qu'il est beau et gentil. Il a appris d'instinct qu'une personne qu'il aime bien a du pouvoir sur elle. Il peut lui demander des choses. Il aimerait devenir un enfant riche et fort. Il aurait pu, c'est devenir un enfant ignare et même méchant comme ses parents. Mais non, il fait partie de ces êtres qui ont un caractère tellement fort que leur milieu et leur famille ne les touchent pas. Ils sont ce qu'ils sont, il n'y a rien ne les fera changer. Une rose dans un tas de fumier. Il rêve qu'il est très riche et vit dans une belle maison. Il ne connaît de la richesse que grâce aux affichettes. Sont prêts des marchands de journaux. Lorsqu'il est dehors, il aime les regarder. Il voit ces gens beaux, bien habillés, qui semblent toujours être heureux et dans un décor de rêve plein de lumière. Il n'a pas comme son père de la haine pour ces gens, mais il les envie. Il aimerait être comme eux ou les connaître. Lui, son père, par jalousie et méchanceté, rêve de détruire tout ça. Bien au contraire, lui aimerait le préserver et entrer dans ce monde. Voyant que sa mère ne vient pas, comme il a très faim, il décide de sortir. Lève. Et quitte l'appartement pieds nus. Il descend les escaliers en vitesse. La porte au deuxième étage de gauche est ouverte. Une femme forte, cheveux gris, mi-long, elle doit avoir dans les 60 ans, porte un manteau marron en laine, un sac à provisions en plastique bleu. Bonjour Bijou.
Bonjour Madame Dupin.
Elle lui sourit, elle lui met la main sur la tête et lui caresse ses cheveux. Il lui dit,
j'ai faim.
Tu n'as pas mangé?
Non.
Et soupire et dit, pauvre gosse, va, attends. Entre. Il entre. Il fait sombre, ça sent la naphtaline. Madame Dupin est très propre. Elle est veuve. Elle connaît Bijou depuis qu'il est né. Elle le trouve très mignon et gentil. Il ouvre une porte de son couloir. Entre. C'est une espèce de salle à manger, genre 1930, très sombre, avec des meubles, des plantes vertes, napperons, bibelots et photographies d'une autre époque.
Tu veux un livre dimanche?
Oui. Elle prend sur un fauteuil en tapisserie, recouvert d'un napperon, une revue. Elle le lui tend.
Tiens.
Merci. Le livre dimanche, c'est l'hebdomadaire Point de vue. Elle le donne toutes les semaines.
Tu te distrairas en regardant les images. Et puis, tu pourras découper si tu veux.
François regarde la couverture et demande.
Qui est le jeune homme?
Lui, c'est Gilbert Tremblant, l'homme le plus riche du monde.
Enfin, plutôt le fils de l'homme le plus riche du monde.
Attends, je vais te chercher quelque chose.
Et elle le laisse. Madame Dupin lui donne toujours quelque chose. Il s'est rendu compte, c'est que chaque fois qu'il demandait, les gens le lui donnaient. Il suffit qu'il leur sourit et se laisse caresser. Il n'y a qu'avec ses parents que ça ne marche pas. Elle revient.
Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Merveilleux Monsieur Bébé. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.